Au programme du prochain quart d'heure, notre invité, l'ancien ministre béninois Théodore Olo, alors que le Togo pourrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Les matières premières, on vous parle de l'ère Trump 2, avec le soja d'Amérique latine qui profite déjà de ce retour de Trump à la Maison Blanche. Explication avec Marie-Pierre Olfan. Et puis grand reportage, les tensions entre Bamako et Paris, les espoirs et les frustrations des Maliens de France. On les écoute, Alexis Bédu les a rencontrés. Et tout de suite les sports avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Arnaud.
Le football pour démarrer avec la 7e et avant-dernière journée de Ligue des Champions. Mo Salah et Liverpool visent le 7 sur 7.
Les Reds seuls en tête grâce à leurs 6 victoires en 6 matchs et qui reçoivent Lille. Énorme défi pour un LOSC miné par les blessures. L'occasion de revoir Mohamed Bayo dans le groupe des joueurs convoqués. Le Guinéen qui pourrait rebondir ailleurs durant ce mercato et qui traverse une saison compliquée, Cédric de Oliveira.
Les satisfactions sont peu nombreuses ces derniers temps pour Mohamed Bayo. Alors l'attaquant guinéen devrait apprécier l'ambiance d'Anfield, même s'il n'est pas considéré comme un joueur indispensable par son entraîneur Bruno Genesio.
Alors je vais parler de Momo parce que c'est quand même un joueur de l'effectif qui est censé pouvoir prendre le relais, soit en cours de match, soit d'un match à l'autre.
La déclaration a eu lieu il y a 2 semaines, mais les choses n'ont pas changé. Bayo est au mieux remplaçant. Son temps de jeu est limité cette saison. Titulaire à Madrid pour y affronter l'Atlético en octobre, il a joué 10 minutes contre Stumgras avant la trêve. Ce n'est guère mieux en Ligue 1, mais son entraîneur croit toujours en ses qualités.
Je suis quelqu'un d'empathique et il n'est pas exclu du groupe, ni pour des raisons d'éventuel départ, ni pour d'autres choses.
2 ans et demi après son arrivée dans le Nord, Bayo peine à retrouver le niveau qu'il avait à Clermont. Cette saison, l'attaquant de 26 ans n'a marqué que 2 fois. C'est trop peu pour une équipe aussi ambitieuse que le LOSC, qui disputera au minimum les barrages de la Ligue des Champions.
Liverpool-Lille, coup d'envoi, 20h temps universel, une journée qui débutera à 17h45 TU avec l'Atalanta Bergame 13e face au Sturm Graz et l'AS Monaco 16e qui se mesure à Aston Villa, 5e du classement. Barcelone, dauphin de Liverpool, se déplace à Benfica et également au programme le Bayer Leverkusen 4e face à l'Atlético de Madrid.
Handball, le tour principal du mondial masculin démarre ce mardi.
Une nation africaine concernée, la Tunisie, à 14h30 temps universel, les Aigles de Carthage affrontent la Suisse. Un des adversaires les plus abordables d'un groupe 1 qui compte aussi le Danemark et l'Allemagne. Une journée également consacrée aux matchs de classement avec la Guinée face au Koweït et l'Algérie contre la Pologne.
Et pour finir du cyclisme et la rentrée médiatique de Binyam Girmay.
L'Érythréen qui sort d'une saison 2024 exceptionnelle avec 3 victoires sur le Tour de France couronnée du maillot vert du classement par points. Le sprinter de l'équipe Intermarché Wanty débutera 2025 en Espagne dans 1 semaine avec un objectif très clair, gagner des course majeure du calendrier. On le verra sur les classiques de printemps, Milan-San Remo ou encore Paris-Roubaix qu'il devrait découvrir. Et bien sûr, le Tour de France cet été.
Mon objectif, c'est d'arriver dans la meilleure forme possible au moment des grandes classiques. Et puis bien sûr, ensuite pour le Tour de France. C'est la course la plus importante du calendrier. Il faut que je sois au même niveau qu'en 2024, me préparer pour ça, travailler aussi avec mes coéquipiers. Ce serait bien de regagner au moins une étape, peut-être plus, qui sait. Je connais mon potentiel, celui de ceux qui m'entourent, mais on ne s'attendait pas à remporter 3 étapes et le maillot vert l'année dernière. Ce sera dur de faire aussi bien, mais on va se donner à 100%. Et essayer de faire quelque chose de grand cet été encore sur le Tour de France.
Binyam Girmay, par ailleurs pas encore sûr de participer au Mondial 2025 au Rwanda, le parcours très montagneux n'étant pas adapté à son profil, mais il ne ferme clairement pas la porte compte tenu du caractère historique de cette première sur le continent africain.
Merci à vous Antoine Grenier et à tout à l'heure dans RFI Matin.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une les premiers pas de Donald Trump 2, le deuxième mandat du président américain, 47e président des États-Unis. Désormais, il a prêté serment hier, vous avez pu le vivre en direct sur RFI. Et comme promis, il a commencé à signer toute une série de décrets, notamment l'état d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique, pour stopper ce qu'il considère être l'invasion des clandestins. On parle aussi de l'abrogation de décrets protégeant les droits des minorités sexuelles, du retrait de l'accord de Paris paris sur le climat ou encore du retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Les premiers décrets de l'ère Trump 2, on fait le détail avec Guillaume Nodin dans le journal de 7h. On vous parle aussi ce matin, et c'est à retrouver sur RFI.fr, un échange exclusif avec RFI, avec le fils de l'ancien dirigeant libyen, Saïf al-Islam Kadhafi, dit avoir été approché par les proches de Nicolas Sarkozy pour modifier sa déposition auprès des juges français. On parle bien de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et le fils de Muammar Kadhafi assure dans cet entretien accordé à RFI par écrit que Nicolas Sarkozy a accepté de l'argent de son père à hauteur de 5 millions de dollars en espèces. On revient sur ces accusations et la réplique des avocats de Nicolas Sarkozy ce matin sur RFI. Le Togo va-t-il rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Ce n'est pas impossible, a déclaré jeudi dernier Robert Ducey, c'est le ministre togolais des Affaires étrangères. Alors pourquoi le régime de Faure Gnassingbé caresse-t-il ce projet? On en parle avec Théodore Olo, qui a été ministre béninois des Affaires étrangères et qui a présidé aussi la Cour constitutionnelle du Bénin. Il livre son analyse à Christophe Boisbouvier.
Professeur Théodore Olo, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous surpris par l'éventuelle adhésion du Togo à l'AES, l'Alliance des États du Sahel?
Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. Et de ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie, et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus, en réalité, de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères.
Oui, Robert Ducey est prudent. Il dit qu'il faudrait que ce projet soit validé par le président et par le Parlement. Il affirme aussi que l'Alliance des États du Sahel, c'est une coalition souverainiste et qu'il est donc logique que le Togo y adhère puisqu'il partage la même idéologie.
Je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027. Donc c'est un prétexte à la réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO.
Ce que sous-entend le ministre togolais, c'est que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, c'est ce que disent en tout cas les trois pays actuels de l'AES, et qu'avec la CEDEAO, il n'y a pas de vraie souveraineté.
Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana puissent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine.
Donc pour vous, la CEDEAO n'est pas instrumentalisée par une puissance étrangère comme la France?
Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines positions. En tout cas, quand j'étais à ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, je n'avais jamais eu l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait un leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas eu une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté.
Voulez-vous dire qu'il y a une convergence entre les trois pays de l'AES et le Togo d'un point de vue idéologique ?
C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce qu'aujourd'hui dans ces pays nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques parce que le Togo aussi, en tant qu'État souverain, défend ses intérêts.
Sur le plan économique, justement, depuis que la frontière Niger-Bénin est fermée, les marchandises à destination et en provenance du Niger ne passent plus par le port de Cotonou, mais par celui de Lomé. Avec une adhésion du Togo à l'AES, est-ce que cette route commerciale ne serait pas encore plus renforcée et validée ?
Pour aller du Togo au Niger, il faut traverser non seulement le Togo, mais il faut aussi traverser le Burkina Faso. Vous savez qu'il y a des difficultés militaires en raison de l'insécurité qui règne, ce qui fait que les commerçants se sentent un peu pénalisés et il y a des protestations en raison du renchérissement de coûts des produits qui sont importés. Ce qui veut dire qu'il va falloir garantir la sécurité de ce corridor. Cela prendra du temps, mais si la volonté politique y est, ils y arriveront.
Professeur Théodore Olo, je vous remercie.
Notre invité Afrique ce matin, Théodore Olo, ancien ministre béninois des Affaires étrangères et qui a aussi été président de la Cour constitutionnelle du Bénin, il répondait à Christophe Boisbouvier. L'actualité des matières premières avec Marie-Pierre Olfan. La part de marché du soja américain en Chine a chuté en 2024. Les derniers chiffres le montrent, même si la Chine a augmenté ses achats de grains américains ces derniers mois. Sur l'année passée, c'est le soja du Brésil et d'Argentine qui gagne les faveurs de la Chine.
Lors du premier mandat de Donald Trump, le soja avait souffert plus que n'importe quel autre grain des tensions entre la Chine et les États-Unis. Les importateurs chinois ont donc essayé d'anticiper une reprise de la guerre commerciale. Ils ont augmenté leurs importations de soja américain pendant plusieurs mois en 2024, mais sur la totalité de l'année, les volumes ont finalement chuté de plus de 5%. Avec cette baisse, la part de marché des États-Unis est tombée à moins d'un quart, selon les calculs de l'agence de presse Reuters. Le soja qui n'a pas été acheté en Amérique du Nord l'a été en Amérique du Sud. Le Brésil a augmenté ses ventes aux géants asiatiques l'année dernière. Plus de 70% du soja acheté par la Chine est maintenant brésilien. Le géant agricole a l'avantage d'offrir des prix compétitifs et les volumes nécessaires. Mi-janvier, l'Agence agricole nationale a encore relevé ses prévisions de production. La CONAB prévoit une récolte record cette année et des exportations supérieures à 105 millions de tonnes. Dans une moindre mesure, l'Argentine a profité également de la stratégie chinoise de diversification. Le pays a plus que doublé ses ventes de soja vers le géant asiatique. Ses achats en Amérique latine de la Chine sur fond de crainte de guerre commerciale avec les États-Unis ont abouti à un volume record d'importation de soja pour le pays. Les stocks qui se sont constitués vont permettre à la Chine d'attendre de voir à quoi ressembleront les premiers jours du nouveau mandat de Donald Trump. Ces stocks annoncent aussi probablement un ralentissement des importations chinoises de soja dans les prochaines semaines. Ralentissement qui pourrait faire baisser les prix sur les marchés mondiaux.
Les matières premières, Marie-Pierre Olfan, que vous retrouvez sur RFI.fr. Grand reportage avec les Maliens de France. Cela fait plus de 3 ans et demi maintenant que la junte militaire a pris le pouvoir au Mali. Depuis, les relations sont gelées entre Paris et Bamako. L'aide au développement coupée côté français. Et au Mali, tout projet associatif subventionné par la France est bloqué. Pour les quelques 500 000 membres de la diaspora malienne en France, il ne reste qu'une seule option, les transferts d'argent. Ces envois permettent d'aider les proches et de participer à distance au développement du pays. C'est ainsi qu'en 2023, le Mali a reçu plus $1 milliard grâce à ses expatriés. Tension Bamako, Paris, espoir et frustration des Maliens de France. Un grand reportage d'Alexis Bédu.
Djibril Maïga est arrivé en France il y a 30 ans, alors qu'il était enfant. C'est un membre actif de la diaspora malienne. Il travaille dans la sécurité.
Le Mali a toujours été un pays d'émigration. Les Maliens ont toujours migré vers l'extérieur et ont ramené des richesses vers le pays. Au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tous les canaux sont bloqués.
L'homme est imposant. Sa voix porte quand il raconte son récent voyage à Bamako. Il y a investi dans l'immobilier il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il est en colère, triste. Les temps ont changé, dit-il.
aucun Malien de la diaspora investit au pays parce qu'on n'a aucune visibilité désormais. Les investissements sont au point mort. Ils sont au point mort. On ne peut pas continuer à payer des salaires, on ne peut pas continuer à construire des maisons, à payer des maçons ou des maisons qu'on n'est même pas sûr de pouvoir habiter.
Donc vous réussissez quand même encore à envoyer de l'argent aux proches.
Oui, c'est plus important que tout parce que les gens sur place n'ont plus les moyens. Et il faut trouver absolument des canaux officiels ou non officiels pour faire parvenir. Voilà, il y a toujours une ordonnance qu'on vous balance, il y a toujours un cas social, chaque matin.
Dans un café de Montreuil, en proche banlieue parisienne, on retrouve Diana Gandega.
Ça, c'est les t-shirts qu'on a fait, ça fait déjà 4 ans.
Ancienne meneuse de l'équipe nationale malienne de basket avec sa petite sœur Touti.
Là, c'est la silhouette de Touti.
Ouais.
On a mis le côté le bogolan, hein,
le bogolan,
pour le Mali, le drapeau, vert, jaune, rouge, le drapeau, ouais, et le féminin.
D'accord. Elle discute, téléphone portable à la main, avec une de ses connaissances, Mamadou Diakité.
On peut acheter ces t-shirts, on peut ?
Lui est artiste et animateur associatif.
Ça, on les a produits, on les a envoyés.
D'accord.
Mais on peut juste envoyer. Nous, ouais, on peut pas aller faire un camp de basket, venir officiellement.
Oui.
On peut pas.
Même si vous avez été international malienne.
Même si on est international, ça suffit pas. Ça dépasse la fédération. Donc, oui, Diana et Touti, on veut parce que vous avez représenté le pays. Mais aujourd'hui, au-dessus, si vous venez, c'est la France qui vient. Encore apporter de l'aide, non. Eux, c'est vu comme ça au-dessus. Donc on comprend, on patiente.
Voilà. C'est frustrant.
Oui, ça se voit sur mon visage. Depuis 3 ans, on est frustrés.
Un grand reportage signé Alexis Bédu.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel ? Ce n'est pas impossible, a déclaré Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères. Que vous inspire cette hypothèse ? Le pays quittera-t-il la CDAO ? Quels seraient les avantages pour Lomé ?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
entreprendre en Afrique pour les jeunes diplômés avec les conseils du coach Didier Akwété.
Demain,
calculer le coût d'un crédit ou comment utiliser facilement les mathématiques au quotidien.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.